La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Faire le métier d'éditeur, c'est avoir chaque jour en tête des textes et des auteurs d'un côté, et puis le public des lecteurs de l'autre. Mais les figures d'éditeurs dont nous parlons cette semaine ont d'abord été aiguillonnées par des textes qu'ils ont réellement aimés, par des auteurs qui les ont vraiment interpellés davantage que par la volonté de toucher un large public. Leur démarche n'était pas idéaliste, elle consistait simplement à suivre leur propre voie, leur propre lecture, leur propre liberté, et à partager avec d'autres ce qui constituait pour eux le meilleur ou l'essentiel. Ces éditeurs dont nous parlons toute la semaine, c'était d'abord Jean-Jacques Pauvert lundi, cet homme qui a notamment fait connaître au grand public les œuvres du Marquis de Sade et permis ainsi l'émergence d'un débat sur ses textes, c'est Chantal Aubry qui nous a raconté son parcours. Mardi, nous avons retracé l'histoire des éditions de Minuit, de Vercors à Jérôme Lindon. Et enfin demain, avec Olivier Bessard-Banqui, nous ferons un tour d'horizon historique de l'édition française et de ses bouleversements depuis 1975, date de la première d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, et de la mort de Gaston Gallimard. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de l'éditeur et critique littéraire Maurice Nadeau, nous sommes avec Tiphaine Samoyau, professeure de littérature comparée à l'Université Paris 3, romancière, essayiste, elle-même également critique littéraire. Et on lui doit la préface au livre de Maurice Nadeau sur ses 60 ans de journalisme littéraire au journal Combat, de 1945 à 1951. Un livre édité justement aux éditions Maurice Nadeau, dont s'occupe aujourd'hui son fils Gilles Nadeau. Et je signale que cette émission est enregistrée le dimanche 17 mars au Salon Livre Paris. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Qui êtes-vous ?
Ben, je ne sais pas trop moi ce que je suis, c'est ça le malheur. Et... Enfin le malheur, et c'est comme ça, enfin, c'est le sort de toute personne qui s'interroge un peu. Alors est-ce que je suis l'homme de ma fonction ? C'est en général ça dans la société actuelle. On est ceci, on est cela. Est-ce que je suis éditeur ? Enfin, si j'étais éditeur, j'éditerais pas 7 ou 8 livres par an et ceux qui me plaisent, je prendrais une entreprise, je la ferais fonctionner, produire, etc. Bon, est-ce que je suis directeur de journal ? Oui, mais le journalisme, ça m'a jamais, en tant que tel, ça m'a jamais beaucoup intéressé. Est-ce que je suis écrivain ? On peut pas dire. Un écrivain, ça écrit. Bon, que j'ai pu être aux 4 livres, est-ce que ça suffit pour... Enfin, voilà.
Maurice Nadeau, au micro de Françoise Estep. Bonjour, Tiphaine Samoyau.
Bonjour, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup d'être là. Qui était Maurice Nadeau dans votre œil à vous ? Est-ce que c'était un directeur de journal ? Est-ce que c'était un écrivain ? Est-ce que c'était un éditeur de presse ?
C'était un peu tout cela à la fois. Alors peut-être pas écrivain, puisqu'il il ne reconnaissait pas l'être. Hein, donc je pense que ce qui définit un écrivain, c'est le fait de se sentir un écrivain. Il y a des écrivains qui
écrivent pas. Il suffit
de
se sentir écrivain pour être écrivain ?
À mon avis, oui, il y a des.
Pourtant, Maurice Nadeau n'aurait pas dit la même chose que vous.
Il y a des grands écrivains, sans doute, qui n'ont pas beaucoup écrit. Je ne pense pas que. Voilà, Maurice Nadeau n'était. Précisément, c'est peut-être pour cela qu'il était un grand éditeur. C'est-à-dire qu'il reconnaissait les écrivains et il ne cherchait pas à rentrer en concurrence avec eux. C'est quand même comme ça que moi, je l'ai perçu. Comme quelqu'un qui aimait profondément les livres, la littérature. Et qui accompagnait cet amour des livres d'un engagement très très profond dans le siècle. Pour moi, ça a été un homme siècle. C'est-à-dire que je l'ai rencontré, il avait déjà plus de 80 ans, mais je l'ai connu plus de 20 ans puisqu'il a eu une longévité quand même extraordinaire. Et en le rencontrant, j'avais l'impression de rencontrer l'histoire du siècle qui m'avait manqué d'une certaine manière puisque j'étais née dans vers sa fin, disons, pas tout à fait, mais. Et ça me frappait, par exemple, de connaître quelqu'un qui avait été exclu du Parti communiste en 1933.
Et quelqu'un qui avait connu quelqu'un qui avait connu Mallarmé.
Voilà.
Alors, vous êtes aussi biographe de Barthes. Et Barthes disait qu'il devait à Maurice Nadeau cette chose capitale, c'est-à-dire un début. Et vous aussi, vous êtes quelqu'un qui devait à Maurice Nadeau vos débuts, d'une certaine façon.
Oui, c'était assez curieux d'ailleurs de voir qu'à tant d'écart de génération quand même, il avait pu assurer le début de personnes très différentes et à des époques... voilà, il y a quand même une grande différence entre avoir son début en 1952 comme Barthes et puis son début en 1995 ou 19 comme moi.
Son début ou même ses débuts, parce que non seulement il vous a donné accès au journalisme, puisqu'il vous a permis de publier vos premiers articles dans la Quinzaine littéraire, mais il a aussi été votre premier éditeur.
Oui, bah c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'auteurs. Barthes, il a d'abord écrit dans Combat, c'est-à-dire que Nadeau lui a ouvert sa page littéraire dans Combat, et ensuite il a publié Le degré zéro de l'écriture. Donc le premier livre de Barthes, il a été publié par Nadeau.
Ouais. Ça veut dire quoi, de travailler avec Maurice Nadeau comme éditeur? Est-ce que ça veut dire retravailler beaucoup les textes? Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est très proactif, finalement, sur le texte lui-même? Ou est-ce que c'est une grande liberté? Et finalement, quand on fait confiance à un auteur, on lui laisse produire le texte qu'il souhaite?
Alors, chez lui, c'était plutôt une grande liberté. Quand il aimait un texte, il le retouchait peu, hein. J'ai lu dans ses mémoires qu'il lui était arrivé de retoucher des textes. Il paraît-il que Gombrowicz, alors c'était des traductions, alors c'est un petit peu différent, mais se plaint par moment dans son journal d'un certain interventionnisme de Nadeau, ou un autre auteur qui n'est pas forcément très connu, mais qui est un auteur tout à fait majeur que Nadeau a publié, qui est Fred II, dont il a publié un livre absolument monumental qui s'appelle La Ghana. Quand il a publié son second livre, il l'a, paraît-il, beaucoup retouché. En tout cas, Fred II dit que, dans sa dédicace à Nadeau, que c'est un livre dont Nadeau est aussi l'auteur. Et donc, il pouvait être interventionniste par moment, selon les textes. Mais généralement, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai eue, je le voyais aussi travailler comme éditeur à son bureau. Soit, s'il prenait un texte, il l'acceptait dans sa totalité.
Alors, à la mort de Maurice Nadeau en 2013, vous avez écrit une lettre à Maurice Nadeau que vous avez publié dans le journal Libération. Et quand on lit cette lettre, on a l'impression que c'était une petite secte, les gens qui étaient autour de lui, à tel point que les personnes ne comprenaient pas toujours de l'extérieur pourquoi vous, qui étiez des personnalités souvent très fortes, vous acceptiez de vous en remettre complètement à Maurice Nadeau. C'était un gourou aussi pour vous ?
Oui, c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine autorité. C'est sans doute ça qui a assuré ou lui a donné cette importance. C'est-à-dire que il fonctionnait aussi, il faisait fonctionner autour de lui quelque chose qui était de l'ordre du groupe politique plus que peut-être une assemblée au sens social actuel du terme. C'est-à-dire que on n'était pas dans un rapport. Voilà, de travail, à rémunération. On était tous un tout petit peu bénévoles. Et donc, on se sentait appartenir à une sorte de plus de communauté.
Avec une couleur politique très particulière ?
Alors, la couleur politique, Nadeau la donnait lui-même, hein, parce que c'est quelqu'un dont l'engagement trotskiste a été déterminant pour toute sa carrière et son existence et certains de ses choix. Mais en revanche, il n'était pas du tout sectaire, c'est-à-dire que il avait appris du trotskisme aussi une certaine forme de marginalité, d'écart par rapport au parti de gouvernement, puisque ça n'a jamais été un parti de gouvernement, donc il se sentait toujours marginal dans la vie politique, et ça lui donnait une très grande ouverture d'esprit, qui fait qu'il s'entourait de gens qui étaient de sensibilité assez variée. Disons qu'il n'allait quand même pas sur tout le spectre de l'échiquier politique, mais quand même assez varié.
ce vieux truc qui remonte à la surface. Une tristesse comme du surplace.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Maurice Nadeau avec vous, Tiphaine Samoyo. Alors 102 ans, c'est la durée de la vie de Maurice Nadeau. Il est né en 1911. Il faut retracer un tout petit peu son parcours biographique, donner quelques jalons tout de même sur sa vie, dire d'abord qu'il a été marqué par le fait que c'est un orphelin de guerre.
Oui, c'est un orphelin de guerre, donc son père, il le connaît à peine, hein, puisqu'il meurt assez tôt pendant la guerre. Et il est élevé par sa mère de façon très modeste, hein. Sa mère était femme de ménage. Donc c'est pas du tout un héritier, hein. C'est quelqu'un qui était pupille de la nation, qui a été un enfant de l'école républicaine, et qui d'ailleurs a passé le concours de l'école normale pour devenir instituteur. Métier qu'il a pratiqué jusqu'à son entrée donc au journal Combat.
Professeur de lettres, puis instituteur.
Oui, c'est ça. Il voilà, professeur de lettres, puis instituteur. Il avait choisi d'être instituteur au moment où il a amplifié son engagement politique dans le trotskisme pour pouvoir être plus actif et donc avoir moins de travail et être plus actif politiquement. Et donc ça, c'est juste avant la guerre. Et ensuite, il prend des fonctions dans la résistance. Et avant d'entrer à Combat, presque par hasard, en réalité, il pensait continuer ainsi. Hein.
Donc dans la résistance, il évite de peu la déportation.
Ah oui, c'est même extraordinaire, parce que c'est le jour où Rousset est arrêté. David Rousset est arrêté. Et c'est la femme de Rousset qui lui dit de pas monter parce que la Gestapo est à l'étage. Donc il a évité de peu l'arrestation.
Alors Maïhélène Berassategui tout à l'heure nous en parlera aussi durant sa chronique. Et puis donc ensuite ce sont les années à Combat et assez rapidement l'édition, notamment comme directeur d'une collection Les Chemins de la Vie aux éditions Coréa entre 1949 et 1953. Qu'est-ce qui vous semble encore important à dire finalement sur la vie de Maurice Nadeau pour pouvoir le comprendre, Tiphaine Samoyo?
Eh bien, c'est par le trotskisme qui se met à vraiment rentrer dans la vie littéraire, puisque c'est par ce groupe politique qu'il rencontre André Breton. C'est le premier groupe auquel il va véritablement appartenir, ce groupe des surréalistes. Et son début à lui est marqué par la publication donc en 1945 de l'Histoire du surréalisme, et où il raconte précisément ses liens aussi du surréalisme avec Trotsky, le voyage de Breton auprès de lui au Mexique, etc. Donc c'est aussi par le trotskisme qu'il rentre dans la résistance, et vous le savez, la résistance a été quand même un lieu de rassemblement de certaines élites intellectuelles qui, après la guerre, font l'opinion. Hein, et il faut avoir se représenter ce que signifie un journal comme Combat après la guerre, qui a gagné ses lettres de noblesse à avoir été créé dans la clandestinité. Journal qu'on pense aujourd'hui ou qu'on imagine aujourd'hui comme le journal de Camus. En réalité, ça n'était pas le journal de Camus. Camus en était l'éditorialiste, hein, donc il en donne un peu la ligne littéraire et la ligne politique au moment où Nadeau y rentre. Et donc tous ces liens que Nadeau crée à ce moment-là, à Combat, autour de Combat, où il commence comme journaliste de tout et de rien. Hein. C'est très rapidement que Pascal Pia lui confie la page littéraire, mais au départ, c'est comme journaliste qu'il rentre à Combat.
Mais il a toujours eu, dans sa jeunesse, un rapport à la littérature très présent. Les livres, ça a toujours été là pour lui, ou est-ce qu'il l'a, au fur et à mesure de sa vie, et puis aussi en étant critique littéraire à Combat, amplifié cette fascination qu'il avait pour le livre?
Oui, il avait une fascination pour les livres, mais je ne suis pas certaine qu'il ait envisagé, avant d'entrer à Combat, d'en faire son métier. Je crois que c'est vraiment inséparable de son engagement, et puis de l'importance sociale que pouvait avoir la littérature après la guerre. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il faut tout refonder, il faut refonder des valeurs qui ont été entièrement détruites, pulvérisées, on peut dire, pendant la guerre. Et il a une confiance très grande avec beaucoup de ses contemporains, une confiance que malheureusement on n'a sans doute plus aujourd'hui, sur la capacité de la littérature à porter ses valeurs et à les refonder. À les... Il y a tout un travail comme ça qui doit se faire. Et donc il se sent une mission possible, politique, qui peut passer par ce métier, par cette fonction. Je pense qu'il en avait un peu perdu la foi à la fin de sa vie.
Oui, il y a un côté désenchanté, en effet, dans le Nadeau de la dernière période.
Bah, ou lucide, peut-être plus lucide que véritablement désenchanté. C'est-à-dire que cette capacité de la littérature à rassembler, à former liens, à former communautés, à créer des valeurs, on n'en est plus tout à fait là.
Alors, on va parler avec vous à présent, Tiphaine Samoyau, de l'éditeur Nadeau et puis aussi du journaliste. Mais l'édition, c'est le thème de notre semaine. Il a été éditeur, mais il n'a jamais réellement cherché à faire carrière. On l'écoute.
Il y a une espèce de connivence de l'auteur et de l'éditeur. L'éditeur n'est pas seulement un marchand, un commerçant et... en ce qui me concerne, un piètre commerçant, mais quelqu'un qui a l'oreille, qui entend, qui écoute. On appelait, au Mercure, on appelait mon bureau le confessionnal, parce que les gens venaient, ils venaient se confesser, se dire, exposer leurs histoires, et dont ils pouvaient parfois ne rien tirer, c'est sûr. Mais c'est ça qui permet aussi d'avoir la confiance. Moi, je la donne facilement, mais l'auteur aussi vous la rend. Pourquoi Beckett m'écrit des lettres comme ça? Il n'avait pas besoin de moi, mais il a senti que j'étais, que je comprenais ce qu'il faisait, que je pouvais, etc. Enfin bon. Le principal, c'est que pour moi, la satisfaction que j'ai de ce métier, parce qu'il faut en trouver une quand même, on ne fait pas ça comme ça pour passer le temps, c'est que les auteurs que j'ai découverts étaient vraiment des auteurs. Ils n'étaient rien au début, puis je leur ai donné l'existence. C'est formidable, ça. C'est comme si on accouchait. Hein, on donnait... Bon, il n'existait pas, je le publie, il existe. Il peut aller ailleurs, bon, très bien, il est un auteur. C'est formidable.
Maurice Nadeau, qui a été votre accoucheur, qui vous a accouché en 1999, si l'on peut dire, avec la Cour des Adieux. C'était votre premier roman publié par lui. Beaucoup d'écrivains ont été en effet découverts par Maurice Nadeau. On pense beaucoup, on rappelle toujours que c'est lui qui a découvert Michel Houellebecq. Je voudrais dire quand même, puisqu'on a appris la semaine dernière la mort de Dominique Noguez, que c'est aussi Dominique Noguez qui a apporté le premier Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte, à Maurice Nadeau, qui a eu l'intelligence, en effet, de voir tout l'intérêt que ce livre pouvait avoir. Mais il a découvert, dans des champs très variés, des écrivains qui ont ensuite fait date, Tiphaine Samoyau.
Oui, et aussi bien des écrivains français que des écrivains étrangers. Hein. Donc, on lui doit quand même la première publication en France de Sous Volcan de Malcolm Lowry, de Ferdy Dirk de Gombrowicz. Il a publié Henry Miller, alors que Henry Miller était assez fortement censuré en France. Il a republié Sade, qui était lui aussi à l'enfer et complètement disparu. Et évidemment beaucoup aussi d'auteurs français qu'il a, comme il dit, de façon un peu comme ça démiurgique, hein, c'est étonnant, comme il dit, j'invente les auteurs, c'est moi qui les fait écrivain.
Alors, par exemple,
et je crois que c'est ce qu'il aimait en fait.
Hein, il a fait Pérec.
Complètement.
Parce que Les Choses, c'est un livre, quand il l'a lu, il l'a trouvé bon, mais enfin il n'a pas pensé que c'était un livre qui allait avoir un impact si fort sur la littérature française, mais tout de même il a senti quelque chose.
Oui, alors l'exemple de Pérec illustre bien aussi ce qu'on entendait de Nadeau sur son métier, c'est-à-dire que il a certes publié lorsqu'il était éditeur chez Hachette, parce que ça il faudra en parler, mais c'est aussi une particularité de Maurice Nadeau d'avoir été un grand éditeur chez d'autres éditeurs, hein, avant de fonder sa propre maison d'édition. Il avait des collections chez les éditeurs et c'était ainsi qu'il publiait. Donc il a publié comme ça Pérec, et ensuite il a vraiment transformé Pérec en écrivain, ou Pérec s'est transformé en écrivain à son contact. C'est-à-dire que les choses, c'était un premier texte, mais ensuite, il a exposé très régulièrement. Il y a des lettres de Pérec à Maurice Nadeau qui sont très, très importantes, parce qu'il expose périodiquement ses projets, la manière dont il les conduit. Et c'est certain que Pérec, qui était quelqu'un de fragile, avait besoin de cet accompagnement de Nadeau. Et à la fois, Nadeau aimait rencontrer les écrivains. On le voit parce que dès qu'il lisait un manuscrit, ou qu'il voulait rencontrer l'auteur. Il pouvait pas. C'est pas simplement le livre qui comptait. C'était le livre porté par une personne. Et donc, il avait besoin. Il est devenu ami avec beaucoup des personnes qu'il a édité.
Tout ce côté confessionnal. Oui, alors qui était devenu son bureau.
Oui, chez Pérec, il y a une lettre à Maurice Nadeau, par exemple, qui est considérée comme le texte le plus clair de Pérec sur sa propre création, sur son propre art d'écrire. Et donc, il a publié W ou le souvenir d'enfance. Enfin, il a publié dans la quinzaine littéraire les chapitres de la fiction de W. Donc il a toujours été très proche de cette œuvre.
Nathalie Sarraute aussi a été, alors je ne sais pas si on peut dire pour le coup, découverte ou inventée par Nadeau, mais un petit peu quand même peut-être.
Ces auteurs du nouveau roman, ils ont été d'une certaine manière inventés par lui, au sens où il est un des premiers à avoir écrit des articles sur eux, mais il ne les a pas publiés. Lorsqu'il découvre, qu'il lit pour la première fois Malone meurt de Beckett, là, il découvre un écrivain absolument majeur qu'il va regretter toute sa vie de ne pas avoir publié le premier.
Mmh. Bon, il faut écouter l'émission d'hier où on parlait en effet de la découverte de Beckett par Jérôme Lindon.
Oui. Mais Beckett sera très proche de lui. Je pense que Beckett ira aussi au confessionnal auprès de Nadeau, même si Nadeau n'est pas son éditeur. Donc il pouvait le faire aussi avec des écrivains qu'il aimait.
Je crois que je suis comme tout le monde, si je n'avais pas lu, je serais un animal sans grand intérêt. Je crois que c'est par la lecture qu'on arrive à se faire une vision du monde, c'est beaucoup dire. Enfin, qu'on s'aperçoit qu'on existe dans un monde, qu'on est quelque chose ou quelqu'un dans un monde, enfin un être vivant dans un monde comme ça. C'est la littérature, c'est le livre, c'est la lecture qui fait que... comme on dit, ça vous ouvre l'esprit. Non seulement ça vous l'ouvre, mais ça le forme et on devient autre. Enfin bon, on devient différent après une lecture, on devient différent de ce qu'on était avant de ça. Alors il y a des gens comme ça qui vous... Bon, je pense à ça parce que je pense à Barthes, il y a une exposition Barthes.
Nadeau dans cette archive de 2012 avec Alain Van Steen, Tiphaine Samoyau.
À la fois, effectivement, une confiance dans la capacité émancipatrice de la littérature que je pense qu'on peut conserver. J'avais peut-être un discours un petit peu désenchanté tout à l'heure. En effet, je pense que la littérature a perdu beaucoup de son poids social par rapport au moment où Nadeau a commencé à en faire métier. En revanche, elle n'a rien perdu de sa capacité à émanciper les esprits.
Mais de la même manière que lui ne pensait pas faire carrière forcément dans le livre, aujourd'hui encore, hein, par parenthèse, la question c'est comment est-ce qu'on découvre le plaisir, l'intérêt de la lecture. Et c'est peut-être ça que Maurice Nadeau a réussi à faire, c'est-à-dire précisément donner envie, donner cette espèce de feu sacré à d'autres gens.
Oui, et puis il s'en est donné les moyens parce que non seulement donc il a publié des écrivains, il était tellement passionné par eux ou touché par eux qu'il les défendait et qu'il a mis en place une espèce de dispositif qui permettait vraiment de les soutenir. Parce que même si il n'était pas tenté par le commerce, il est dit tout le temps, il a peu gagné d'argent avec ses livres, beaucoup des livres auxquels il a cru n'ont pas été beaucoup vendus à leur époque. Donc il le disait toujours en riant qu'il avait ruiné successivement tous les éditeurs chez qui il avait travaillé. Bon, c'était pas tout à fait vrai, mais bon, en tout cas, il avait la réputation d'être un éditeur quand même plutôt secret. même
et
si au fond...
Il demandé des clauses aussi pour travailler chez tel ou tel éditeur. Dans son contrat, il disait qu'il fallait que soit mentionnée la liberté pleine et entière dans le choix des auteurs à publier. Alors évidemment, quand on est une maison d'édition, ça fait un peu peur comme clause, j'imagine.
Oui, mais il se sentait pleinement éditeur, même s'il était dépendant d'une plus grande maison d'édition. Je pense qu'il a jamais sacrifié cette liberté-là. Mais se donner les moyens, c'est aussi publier dans un journal, faire connaître par un journal, c'est-à-dire c'est rendre absolument indépendant la question de la diffusion par l'écrit journalistique et ou critique et l'édition. Hein, il a toujours pensé ces deux activités liées. C'est une de ses particularités parce que c'est pas du tout le propre de tous les éditeurs. Donc il a toujours eu, parallèlement à ses activités d'éditeur, une activité de critique littéraire, de journaliste. Et il a toujours été accompagné par des journaux. Hein, c'est-à-dire il est dans Combat d'abord. Pour illustrer encore une fois ce poids de la littérature, il faut bien penser qu'après la guerre, Combat, c'est seulement 4 pages. Et une fois par semaine, il y a une page entière, immense, hein, c'est des journaux avec des immenses formats, une page entière consacrée aux idées, à la littérature, et où il parle aussi bien de philosophie que d'histoire que littérature. Hein.
D'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains dont il parle dans Combat, comme Bataille, comme Blanchot, comme Michaud, des écrivains qu'il connaissait, mais il n'était pas question pour lui de les éditer. Ce n'était pas ça son projet.
Non. Non, de toute façon, l'édition est venue aussi du travail de journaliste et d'une sorte de passion pour un certain nombre de textes qu'il va s'agir de défendre contre les lois du marché, contre les lois des prix ou les institutions littéraires dont il se moque beaucoup et contre lesquelles il combat aussi.
Alors comment ça se passe la création de la Quinzaine, Tiphaine Samoyo, qui est une autre étape dans la vie de Maurice Nadeau?
Alors oui, c'est une étape importante parce que de la même manière qu'à un moment il quitte la dépendance aux plus gros éditeurs pour fonder sa propre maison d'édition, de la même manière, il va créer son propre journal. Alors, il l'avait déjà fait, mais c'était plus une revue, hein, les Lettres Nouvelles, dans lesquelles il publiait les bonnes feuilles des livres qu'il allait publier. Il défendait les auteurs qu'il publiait. Ça, c'est aussi quelque chose de très particulier, hein, chez Nadeau, parce que aujourd'hui, on dirait c'est de la compromission de parler des auteurs les auteurs qu'on édite soi-même. Mais pour lui, c'était l'idée qu'il fallait mettre tous les moyens en œuvre pour imposer socialement, culturellement, des choses auxquelles il croyait et qui n'étaient pas forcément ce que la loi du plus grand nombre ou celle du marché défendait.
Alors la loi du marché, elle a quand même eu parfois quelques sourires pour Maurice Nadeau. Donc on a vu que Michel Houellebecq, il l'avait publié d'abord, mais très rapidement, Houellebecq s'en va parce que Maurice Nadeau considère que les poèmes qu'il lui donne ne sont pas des poème suffisamment intéressant et que donc il ne veut pas les publier. Il y a un certain nombre comme ça d'écrivains qui vont soit partir dans d'autres maisons, soit c'est lui qui va partir parce qu'il reste parfois 5 ans, 10 ans dans une maison et puis il passe à une autre maison d'édition. Mais il y a quand même un certain nombre de succès. Et parmi ces succès, il y a Henry Miller, que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. Et puis, il y a Laurence Durel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur quand même ce qui a permis aussi à la maison, à Maurice Nadeau, de vivre ces deux grands écrivains?
Oui, donc il n'était pas contre le succès. Hein. Au contraire, je pense qu'il avait envie que tous les livres qu'il publie aient du succès. C'est pas du tout qu'il cherchait à s'enfermer dans une sorte d'élitisme. Il ne comprenait pas, mais ça, je crois que encore aujourd'hui, aucun éditeur ne comprend pourquoi tout d'un coup un succès émerge. Alors, c'est certain qu'il a eu plus de succès immédiat avec les écrivains étrangers, qui ont déjà une certaine reconnaissance dans leur langue, dans leur pays, et c'est sans doute plus facile à imposer qu'avec certains auteurs français. Sur Houellebecq, effectivement, ça a été un petit succès. C'est-à-dire le succès est venu après, hein, lorsque Houellebecq est parti chez Flammarion. Mais bon, ça a rejailli quand même sur son premier livre.
C'est devenu, du coup, une personnalité très prestigieuse pour avoir publié, découvert le premier.
Oui, mais Nadeau, il s'est beaucoup plaint que les auteurs le quittaient, mais en réalité, c'est pour, voilà, il aimait que les auteurs partent. Ce qu'il aimait, c'est découvrir les auteurs. Mmh. Et on l'a bien entendu hein, dans la pastille de tout à l'heure. Il aimait inventer des auteurs. Et ensuite, suivre un auteur. Vous avez des éditeurs qui ont besoin de garder leurs auteurs toute leur vie, qui sont dans un lien très fort de fidélité avec leurs auteurs. Nadeau n'avait pas cette fidélité. Il avait une fidélité amicale avec un certain nombre d'entre eux, mais pas une fidélité éditoriale. Ce qu'il aimait, c'est découvrir des nouveaux textes, découvrir des nouveaux auteurs, et comme il l'a dit, les fabriquer presque.
Et c'est en cela qu'il n'était pas vraiment, c'est ce qu'il disait dans la première archive, un éditeur au sens habituel du
oui,
terme.
C'est ça.
Quel rapport peut-on trouver, Tiphaine Samoyo, entre tous ces auteurs qu'il a publiés? Est-ce qu'il y a une famille qui comprendrait l'écriture de Gombrowicz, l'écriture de Perec, l'écriture de Malcolm Lowry, l'écriture de Houellebecq? On ne voit pas du tout de lien entre tous ces livres qui sont tous, et tous ces auteurs, tous ces écrivains qui sont tous de grands écrivains. Alors comment faisait-il? Qu'est-ce qui faisait qu'il arrivait finalement à déceler chez des gens aussi différents quelque chose d'intéressant, alors que son goût probablement, je ne sais pas, devait le porter davantage vers un type ou un autre de littérature?
Non, je crois pas. J'aime pas beaucoup l'adjectif éclectique et je pense qu'il lui va pas forcément très bien. Mais comme il fonctionnait au coup de cœur et qu'il avait sans doute le cœur assez large, eh bien, ça explique aussi cette différence. Alors, je crois qu'il était marqué par deux choses qui font pas forcément toujours très bien ensemble, c'est-à-dire un travail original de la langue et en même temps un certain poids social de la représentation. Alors je dis ça va pas forcément toujours très bien ensemble parce qu'effectivement on a tendance à opposer des textes plus réalistes, représentatifs, sociaux, et puis des textes qui seraient plus formalistes ou formels, surtout à l'époque où il a beaucoup édité, hein, ou qui est une époque où on casait très facilement les gens du côté du formalisme, où il y avait beaucoup d'expérimentation de ce côté-là. Et lui liait les deux, hein, purement formaliste, ça l'intéressait pas.
Donc c'était la surprise. Voilà. À la lecture donc, du manuscrit qui lui donnait voilà. Tout d'un coup l'intuition qu'il fallait publier cet auteur.
Il donnait quelque chose qui était de l'ordre d'une vision du monde, mais une vision du monde qui doit passer pas simplement par une représentation mimétique, mais bien par un travail de la langue.
Et est-ce qu'un auteur pouvait petit à petit s'imposer à lui, quelqu'un dont il n'avait pas su déceler au départ le talent? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des conversations sur ce sujet avec lui?
Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Beckett. Il a lu avec beaucoup d'indifférence Murphy. Il l'a même comme critique, il l'a pas véritablement découvert à son premier livre. Il l'a découvert plus tardivement. Mais je dirais que, par exemple, on parlait de Perec tout à l'heure, mais Perec, c'est quelqu'un qui a écrit un premier livre qui est plutôt sociologique, on va dire, les choses, et que Nadeau a accompagné du côté d'un plus grand travail formaliste,
formel. En lui disant justement de lire beaucoup. Oui. Tiphaine Samoyo, vous restez avec nous. C'est comme chaque jour le moment de la chronique dans la compagnie des auteurs. Elle vous est aujourd'hui proposée par Mayalen Berasategui.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mayalen Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour à vous, Mayalen.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous revenez sur Les Jours de notre mort, ce livre de David Rousset qui a été édité précisément par Maurice Nadeau. Alors, de quoi parle ce livre?
Donc David Rousset, on l'a dit, c'était un ami de Maurice Nadeau et il faisait partie du même réseau de résistance. Le travail de David Rousset, c'était de faire ce qu'on appelait du travail allemand, c'est-à-dire, en gros, convaincre la Wehrmacht que le régime nazi allait s'effondrer et que la propagande nazie était de la propagande. Et donc Rousset a été déporté, Nadeau y a donc échappé de très peu, et à son retour, très très vite après, Rousset a publié un livre qui s'appelait « L'univers concentrationnaire ». C'était pas un roman, c'était un des tout premiers ouvrages qui essayaient de décrire voilà, comment ça fonctionne un camp et comment on survit ou pas dans un camp. Et c'est aussi à ce moment-là que du coup il y a les premières associations de déportés qui se créent, que David Rousset reçoit beaucoup de témoignages. Et à partir de tous ces témoignages, il va écrire ce livre, dont il va estimer que c'est un roman et qui s'appelle « Les jours de notre mort ». Comme de son côté, Nado lance la collection qui s'appelle « Le chemin de la vie », qui était à l'époque aux éditions du Pavois, il décide donc de publier ce livre, de publier Rousset.
Mais alors qu'est-ce qui a poussé Nado à choisir ce livre en particulier pour commencer sa carrière d'éditeur, Mayalène ?
Alors, pour Nado, la très très grande question, c'est la question de la forme. Rousset, c'est pas un romancier, c'est pas quelqu'un qui a écrit énormément de romans après la guerre. Il a pas connu, par exemple, la même transformation qu'un Primo Levi. Mais Les jours de notre mort, qui raconte notamment la naissance d'une organisation de résistance à Buchenwald, c'est un roman parce que pour Nado, Rousset s'est fait le créateur de quelque chose qui le dépasse. Et je vais vous lire ce qu'en dit Nado parce qu'il dit ça beaucoup mieux que moi. Il dit « Le roman permet à l'auteur non seulement d'organiser toutes les composantes d'une réalité qui le contraint et le presse, qui cherche par tous les moyens à se faire jour dans un langage qui agrège à sa formation le langage généralement ordurier des camps, il l'oblige à se faire conscience organisatrice d'une totalité qui comprend également le monde des comportements infra-humains que fait naître la société concentrationnaire. » Ça veut dire que Rousset doit aussi expliquer ce qui se passe dans la tête des autres, dans la tête des capots, dans la tête des soldats, etc. Donc, le romancier doit créer par l'écriture l'équivalent d'un monde qu'il surplombe et dont en même temps il fait partie, un monde qui se constitue et ne vit sur le plan de l'écriture que grâce à lui. Un monde qu'il a fait sien, un monde qui est le sien.
Alors par la suite, David Rousset a été écarté par toute une partie du monde des lettres. Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur ce point ?
Alors, ce qui s'est passé 2 ans après la publication de ce livre, c'est que David Rousset a choisi de publier dans Le Figaro un appel aux anciens déportés en disant « Voilà, il existe encore des camps, ces camps sont en URSS ». Et il faut qu'on monte une commission internationale d'enquête sur le goulag. C'est un des premiers en France à utiliser le mot goulag. Et donc pour lui, un camp de concentration, c'est un univers spécifique qui dit quelque chose de la société dans laquelle ce camp existe. Sachant qu'on est à un moment où la conscience entre la différence entre un camp de concentration et un camp d'extermination, entre Auschwitz et Dora, n'est pas aussi présente qu'aujourd'hui. Donc ce qui va se passer, c'est que comme on est tout au début de la guerre froide et qu'on est aussi en pleine affaire Kravchenko, il va être considéré comme un traître à la cause, en gros, par toute une partie des sympathisants communistes. Il va avoir aussi un procès comme Kravchenko, contre les lettres françaises, qui vont notamment l'accuser d'avoir publié des témoignages qui ne seraient pas authentiques. Et ce procès va servir à faire venir à la barre, en fait, différents témoins du goulag. Donc c'est le moment où des gens comme Sartre, des gens comme Merleau-Ponty vont se désolidariser de lui, mais il arrive quand même à créer ce comité qui va publier tout un tas de livres blancs sur les univers concentrationnaires.
Merci beaucoup, Mayalène Berasategui. Je me tourne vers vous, Tiffaine, parce que Nado a aussi publié Les récits de la Colima de Chalamov. Est-ce qu'il y a un rapport ? Alors évidemment, vous avez dit que pour lui, il y avait toujours de la politique quand même dans ses choix. Mais est-ce qu'il y a un rapport particulier à la littérature concentrationnaire chez lui ?
Ah oui, absolument. Et effectivement, c'est son engagement du côté trotskiste qui lui permet d'avoir cette lucidité, de même que Rousset, puisqu'ils ont aussi des positions très anticommunistes. Hein. Les trotskistes sont presque plus anticommunistes que les gens de droite. Hein, c'est-à-dire, ils prennent toujours le contre-pied de leur position, presque. Et au procès Kravchenko, donc, ils ont la lucidité de penser Kravchenko, que Kravchenko dit la vérité, alors que tous les communistes le condamnent. Et la publication, il est donc le premier à publier les récits de la Colima de Chalamov, qui est quand même un texte absolument sidérant, dont on a pris la pleine mesure que lorsque l'œuvre complète a été publiée récemment chez Verdier. Mais la publication de ce texte est vraiment un événement éditorial également, et qui peut faire précisément parce qu'il n'est pas communiste et donc il se sent capable d'attaquer le régime soviétique.
C'est tout. toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, une émission enregistrée exceptionnellement au Salon Livre Paris. C'est le troisième volet de notre série consacrée à des figures d'éditeurs qui ont marqué la vie littéraire française dans la seconde moitié du XXe siècle. Après Jean-Jacques Pauvert lundi, Vercors et Jérôme Lindon mardi, nous parlons à présent de Maurice Nadeau avec Tiffen Samoyo.
Oui, l'activité de critique, donc ça repose finalement sur l'activité de critique et pas une activité qu'on décide un jour comme ça. Enfin, on se dit pas à 12 ans, on peut avoir une vocation d'écrivain. Moi, j'ai pas les vocations d'écrivain. Je crois que les vocations arrivent dans des milieux où justement les questions de choix peuvent se poser. Pour moi, elles se posaient pas la question de choix. Donc l'activité de critique, c'est un peu une activité de lecteur. Puisque je lis beaucoup, puisque j'ai lu surtout beaucoup, j'avais envie, enfin le désir de faire partager, c'est normal, enfin c'est naturel, de faire partager mes goûts, de faire partager mes enthousiasmes ou mes dégoûts aussi. Parce que j'ai aussi considéré ça comme une activité militante et je me souviens de mes articles de combat où j'ai ce qu'on appelle descendu en flamme, enfin des gens comme Jules Romain ou André Mauroy, bon, qui faisait dire à Frédéric Lefebvre « Mais Nadeau, il a mal à l'estomac, pourquoi il descend toujours tout ce qui lui plaît pas ?» Enfin, il y avait ce côté-là. Mais il y avait aussi le côté, par exemple, faire connaître Artaud, faire connaître Bataille, faire connaître Michel Léris, faire connaître au fond aussi le surréalisme, puisqu'il y a ce désir toujours de... d'élargir le public à ce que moi je me considère pas plus malin que les autres, mais enfin à ce que moi j'aime.
Maurice Nadeau au micro de Françoise Esteb. Alors tout compte fait, Tiffen Samoyo, l'étiquette, puisqu'on cherche à étiqueter quand même Maurice Nadeau, qui lui correspond le mieux, c'est peut-être l'étiquette de lecteur.
Disons que c'est une étiquette qui rassemble ou qui donne une raison à toutes les activités qu'il a pratiquées. Mais bon, il y a un côté de modestie dans ce propos aussi, parce que le critique, il écrit. C'est pas un écrivain, mais il écrit.
C'était pas un journaliste. Et il insistait pour dire qu'il était critique et non pas journaliste.
Quand on lit ses textes, on prend la mesure de ce style. Et c'est un style. Il y a évidemment un côté incisif qui lui permet de critiquer lorsqu'il le souhaite. Mais beaucoup plus que cela, je dirais, un style. Qui est celui du partage. Et quand on lit ces critiques encore aujourd'hui, et c'est ça qui fait qu'on peut les lire encore aujourd'hui, on ressent à la fois cette volonté de partage. Il crée une sorte de familiarité avec ses lecteurs, qui lui vient peut-être aussi de son origine modeste, en tout cas qui fait qu'il veut absolument embarquer son lecteur avec lui. Et c'est aussi pour ça que cette subjectivité-là qui fait qu'on peut encore le lire, parce que sinon beaucoup des auteurs dont il parle, soit on a dit des choses depuis qui font qu'on connaît très bien ce qu'il en pense, soit ce sont des auteurs qui nous intéressent plus. Enfin, si on le lit encore, c'est parce qu'il y a ce sens du partage et cette familiarité qu'il donne avec les écrivains qu'il aime.
Et ce sens du partage, et puis aussi cet enjeu que représente pour lui la lecture, parce que pour lui il ne s'agissait pas, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, de se mettre dans son coin et puis de lire pour soi, mais il s'agissait de la lecture pour sortir justement de sa petite vie, pour agrandir sa vie, pour comprendre les autres, pour se mettre à la place des autres, et du coup, dans sa vie de tous les jours, être un homme différent.
Oui, alors c'est certain que dans l'enfance et à l'adolescence, la lecture a considérablement agrandi son horizon, hein, la vie très modeste qu'il partageait avec sa mère en province, etc. Mais qu'ensuite, il a pensé que ça pouvait élargir encore de manière le monde de manière encore beaucoup plus grande, parce que c'est on parlait d'émancipation tout à l'heure, on parlait de refondation de communauté. Je crois qu'il y croyait vraiment. C'est-à-dire que faire partager son... C'est pas un désir purement ou personnel ou un goût. subjectif. Hein. Il est persuadé que les textes qu'il défend vont permettre de changer le monde. Hein. Et c'est ça qui en fait un éditeur et un critique politique. Il a cette confiance-là.
Alors, il y a des entretiens de Maurice Nadeau qui ont été publiés chez Verdier. Ce sont des entretiens avec Laure Adler qui sont tirés d'une émission de France Culture. Et elle explique dans ses entretiens, Laure Adler, au cours d'une question qui se fait dans un enregistrement chez lui, qu'elle n'a jamais vu autant de livres par terre, des pléiades qui sont comme ça, semble-t-il, rangés sans aucun ordre. Et ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a aucune bibliophilie chez Maurice Nadeau. Et pour lui, le livre cher, disons, n'a pas plus de valeur que n'importe quel livre de poche. Est-ce que ça vous semble pas un bon exemple quand même aussi, Tiphaine Samoyau, du rapport au livre qu'avait Maurice Nadeau?
Oui, donc il n'avait pas du tout un rapport fétichiste au livre, donc ce qui lui importait, c'était effectivement son contenu et son contenu à diffuser, à partager, donc le plus largement possible, donc évidemment par tous les biais, le livre de poche, tout ce qu'on veut. Mais cette remarque me permet de préciser, on disait peut-être que ce qui rassemblerait toutes les activités de Maurice Nadeau, ce serait le terme de lecteur. Alors finalement, non, je crois que plus exactement, ce serait d'une mémoire de lecteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est essentiellement un hyper amnésique de la lecture. Il se souvenait de tout ce qu'il avait lu, de manière extrêmement précise. Et c'est cette mémoire qui lui permet de découvrir d'autres auteurs, parce qu'il peut faire des liens, mais aussi d'exercer le métier de critique avec brio. Et puis et là, c'est quand même quelque chose de très étonnant, parce que cette mémoire de lecteur, il l'a conservée absolument jusqu'au bout. Et on le voit bien, parce qu'il a publié des textes, il a écrit son journal en public dans la Quinzaine littéraire jusqu'à pratiquement les derniers mois de son existence. Et on voit comment il joue de manière extrêmement libre et de plus en plus libre avec cette mémoire de lecteur.
Donc, alors, je crois cette que ce mémoire, serait... est-ce que c'est ça aussi qui le rend parfois sévère? Et en tous les cas, toujours très exigeant, peut-être même parfois un peu ombrageux.
Oui, et puis...
parce qu'il a tous ses chefs-d'œuvre en tête.
Sans doute, il a tous ses chefs-d'œuvre en tête. Et il a besoin, comme toutes les mémoires, de faire venir au premier plan des choses qui peuvent être aussi bien très anciennes que tout à fait contemporaines. Donc c'est exactement le fonctionnement de la mémoire. Et donc, pour lui, Sade peut être un contemporain autant que Léris ou Artaud. Ça, c'est une première chose. Et puis, oui, voilà. C'est...
Est-ce que vous avez en tête, est-ce qu'il vous a dit un jour, il y a un livre que je préfère, et ce livre, c'est celui-là, Au-dessous du volcan, Les fleurs du mal, dont il parlait, je crois, de temps en temps, La comédie humaine. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de cet ordre ?
Eh bien, de manière assez étonnante, sa plus grande fidélité, l'auteur qui l'a accompagné de bout en bout et qui a sans doute été très important pour les choix qu'il a faits, c'est Kafka. Kafka a toujours été présent. Certains auteurs ont été présents à des époques, par exemple Breton, par exemple Bataille, par exemple Sade. Mais Kafka, il a toujours été là.
Et est-ce qu'on comprend mieux Maurice Nadeau quand on sait que Kafka a toujours été là dans sa vie ?
On comprend certains de ses choix. On comprend qu'il ait publié le premier Coetzee, par exemple.
Donc avant qu'il soit prix Nobel.
Bien avant qu'il soit prix Nobel. On comprend aussi son rapport à Pasolini, à la littérature italienne. On comprend des choses.
Au début et toujours, j'ai eu toujours cette parole de Lautréamont, tout le monde poète. Tout le monde doit le devenir. Comme tout le monde doit devenir peintre, architecte, enfin tout ce qu'on voudra. Et puis finalement, il n'y a qu'une partie de l'humanité qui arrive à cette fonction. Mais on va à l'école, on a le baccalauréat, on apprend à écrire. Et on pense que parce qu'on connaît, on sait écrire, on peut écrire. Alors voilà la grande illusion, parce qu'il faut avoir quelque chose à dire. Alors quelque chose à dire, Blanchot disait qu'il fallait avoir rien à dire, mais ça c'était sa conception, mais c'est beaucoup plus compliqué pour y arriver. Mais à supposer qu'on ait quelque chose à dire, alors qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte sa vie intime, on raconte son enfance, sa famille, premier amour, etc. Bon, c'est très intéressant pour soi-même, mais pour les autres, il faut la littérature, c'est ça. L'écriture, c'est arriver à faire participer les autres à ce que vous êtes.
qu'il nous faut méditer, ça, Tiphaine Samoyo, ou qu'on peut donner à méditer à les, aux auditeurs et à tous les gens qui s'improvisent écrivains?
Oui, c'est toujours cette question du partage, c'est-à-dire avoir quelque chose à dire, c'est pas forcément quelque chose de grandiose ou de...
Parce qu'on pourrait avoir de l'élitisme dans ce qu'il vient de dire là.
Oui, mais il ne détestait pas du tout l'autofiction par principe. L'important, c'est d'avoir quelque chose à dire et surtout de vouloir le dire, de vouloir le partager. C'est-à-dire, ce qu'il reproche à certains auteurs, c'est d'écrire pour soi. Mais la question du contenu n'était pas visée ici. Il dénonçait pas forcément une écriture autobiographique, autofictionnelle. Mais en revanche, si on parle de soi, il faut avoir envie d'en faire quelque chose pour les autres.
Pour que le roman donne la sensation du monde dans lequel on vit. C'était ça l'objectif assigné par Maurice Nadeau au roman. Oui. Je crois qu'il faut dire aussi qu'aujourd'hui, Tiphaine Samoyo, vous êtes l'héritière de Maurice Nadeau avec d'autres, et notamment du Maurice Nadeau journaliste, puisque vous avez créé, il y a de cela quelques années, quelques mois finalement après la mort de Maurice Nadeau, une revue en ligne qui s'appelle En attendant Nadeau, en-attendant-nadeau.fr, qui est gratuite. Les auditeurs aussi d'ailleurs, peuvent se rendre sur ce site et lire toutes les contributions que vous y postez très régulièrement. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu quelques mots sur voilà, cet héritage que vous avez envie d'incarner à travers ce titre qui évidemment fait penser à En attendant Godot. Alors pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre un Maurice Nadeau qui n'arrive pas comme Godot?
C'est plutôt l'idée que on peut toujours donner un avenir à la mémoire, hein, et que précisément hériter de quelque chose, c'est vouloir donner un avenir à cette chose. Et donc voilà, donc le titre un peu humoristique a quand même pour fonction de dire cela, hein, qu'il peut y avoir un avenir.
Il n'y a pas un peu de tristesse aussi au fin fond de ce titre?
Bon, le côté démarqué d'En attendant Godot crée un effet d'ironie qui, à mon avis, compense l'effet peut-être de tristesse. Donc, il se trouve que c'est un collectif. Hein. D'abord, j'ai évoqué tout à l'heure le fonctionnement très particulier de la Quinzaine littéraire, qui n'était pas une entreprise de presse comme les autres, et qui a soudé, finalement, ses membres autour de cette figure, hein, cette figure disparue, eh bien, il faut recomposer cette communauté. Parce que j'avais parlé, je crois, dans Libération, dans l'article auquel vous avez fait allusion, de despotisme éclairé. Il y avait quand même quelque chose de très autoritaire chez Nadeau et tout convergeait vers lui. Et donc, on se soumettait quand même à cette autorité. Cette autorité disparue, ne devenant qu'une autorité morale ou mémorielle, mais il fallait recomposer les choses autrement. Et autrement, ça voulait dire continuer à avancer ensemble, mais en inventant quelque chose de neuf. Finalement, ça a été très excitant dans l'aventure. D'une certaine manière, continuer la Quinzaine littéraire, ce qu'il ne souhaitait pas forcément, hein, parce qu'il l'avait souvent dit, qu'il, pour lui, un journal était lié à une personne et que cette personne disparue. Peut-être qu'il perdait une part de son sens, mais du coup, inventer quelque chose aujourd'hui dans la presse en ligne, donner donc un avenir aussi à ces grandes entreprises de critique et d'édition d'autrefois, ça a été un vrai défi et ça a été vraiment passionnant. Et savoir aussi, on s'est vraiment posé la question, est-ce que ça veut dire quelque chose un espace critique sur Internet? Est-ce qu'il n'y a pas finalement d'autres formes à inventer? Et on s'est dit, non, il y a de la place pour essayer de faire vivre cette forme-là. Créer des formes, des sortes de petites chambres, hein, sur cet énorme espace où tout d'un coup on peut être en compagnie des livres autant de temps qu'on veut, aussi peu de temps qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut.
Dernière question sur Maurice Nadeau, puisqu'il faut terminer vraiment avec lui. Il est né donc en 1911, son père, on l'a dit, est mort pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, il s'est coulé dans le surréalisme, et on sait que le surréalisme était peuplé de pessimistes, parce que le surréalisme a ses racines justement dans la Première Guerre mondiale, qui signale la fin d'un monde. La dernière question que j'ai envie de vous poser, Tiphaine Samoyo, c'est est-ce que fondamentalement, Maurice Nadeau n'était pas toujours le pessimiste cet héritage finalement terrible de la Première Guerre mondiale?
Oui, sans doute, il y avait un fond de pessimisme. Et d'ailleurs, les œuvres qu'il vénère, comme celles de Bataille, de Sade, de Lautréamont ou de Kafka, sont quand même des œuvres qui ne sont pas très optimistes. Mais le surréalisme porte bien, auquel il a été fidèle toute sa vie. Il a cru à la poursuite du mouvement surréaliste jusqu'à aujourd'hui, avec des personnalités comme Annie Lebrun ou d'autres. Eh bien, il y a quand même une capacité de dépasser ce pessimisme par l'invention, par l'imaginaire, par la magie.
Merci, Tiffaine Samoyo. Je rappelle que vous êtes donc co-directrice de la revue En attendant Nado, accessible donc sur internet enattendantnado.fr. Vous avez préfacé en 2018 l'ouvrage 60 ans de journalisme littéraire, Les années combat, qui réunit donc les écrits journalistiques de Maurice Nado. On peut également mentionner votre biographie de Barthes, publiée en 2015 au Seuil. C'était La Compagnie des auteurs, enregistrée le 17 mars au Salon Livre Paris, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier, Élise Le, Martin Guénard et Rémi Gouriot. Demain, nous ferons une histoire de l'édition depuis cette année charnière qu'est l'année 1975. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé pour ses lectures de poésie.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, nous faisons salon de beauté en feuilletant des magazines, des poèmes. Comment sacrifier à la beauté sans un regard pour Marilyn? Comment oublier ce chef-d'œuvre de Pasolini, l'un de ses plus beaux poèmes? Marilyn. Du monde antique et du monde futur n'était resté que la beauté et toi, pauvre petite sœur cadette, celle qui court derrière ses frères aînés et rit et pleure avec eux pour les imiter et se met leurs écharpes, touche en cachette leurs livres, leurs canifs. Toi, petite sœur la plus jeune de toutes, cette beauté tu l'as portée humblement avec ton âme de fille du petit peuple. Tu n'as jamais su que tu l'avais parce que autrement ça n'aurait pas été de la beauté. Elle a disparu comme une poussière d'or. Le monde t'en a donné conscience, ainsi ta beauté est devenue sienne. Du stupide monde antique et du féroce monde futur était restée une beauté qui n'avait pas honte de faire allusion au petit sein de la petite sœur, au petit ventre si aisément dénudé. Et c'est pourquoi c'était de la beauté. Celle-là même qu'ont les douces mendiantes noires, les gitanes, les filles de commerçants qui gagnent les concours de beauté à Miami ou à Rome. Elle a disparu comme une colombe d'or. C'est le monde qui t'en a donné conscience et ainsi ta beauté a cessé d'être beauté. Mais tu continuais à être enfant, idiote comme l'Antiquité, cruelle comme l'avenir, et entre toi et ta beauté, accaparée par le pouvoir, se sont mises toute la stupidité et la cruauté du présent. Tu l'emportais comme un sourire entre les larmes, impudique par passivité, indécente par obéissance. L'obéissance exige bien des larmes qu'on ravale, et de se donner aux autres regards trop gais qui demandent leur pitié. Elle a disparu comme une blanche ombre d'or. Ta beauté, survivante du monde antique, exigée par le monde futur, accaparée par le monde présent, devint ainsi un mal. Maintenant, les grands frères se tournent enfin, arrêtent un instant leur maudit jeu, sortent de leur inexorable distraction et se demandent « Se peut-il que Marilyn, la petite Marilyn, nous ait indiqué la voie ? Maintenant, c'est toi, la première. » Toi, la plus petite des sœurs, celle qui ne compte pour rien, pauvre petite, avec son sourire, c'est toi la première, au-delà des portes du monde, abandonnée à son destin de mort. »